Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant le Saint-Esprit. C'est un thème très très important car le Saint-Esprit de nos jours, dans beaucoup d'églises, est un peu méconnu dans son ensemble de compréhension et de l'importance. Chers auditeurs à l'écoute, cette étude, je l'ai faite en consultant un certain nombre d'ouvrages. Personnellement, je serais un menteur de vous dire que je possède le don de la sagesse ou le don du parler en langue, bien que il est absolument important et normal, vous comprendrez, que je le demande. Le demander, chacun de nous devrait le faire, mais le donateur, lui, il décide comment, quand, et il faut des fois chercher en nous quel peut être l'empêchement de recevoir. Donc je prends tout cela très au sérieux, vous le comprendrez bien. Nous sommes à l'étude numéro 3. Et le titre de ce matin sera « L'utilité des dons spirituels ». Les premiers prédicateurs de l'Évangile étaient en général des hommes illettrés et même ignorants. Néanmoins, il est très important que nous comprenions clairement qu'ils étaient sans aucun doute exactement les instruments choisis par Dieu pour leur grande tâche. Les 12 originaux ont été sélectionnés par Christ d'une grande multitude de disciples. La suggestion qu'il les a utilisés uniquement parce que des hommes mieux éduqués ou plus doués n'étaient tout simplement pas disponible, et cela ne s'est pas présenté. Donc ils ont été sans choix délibérés. Ce principe est aussi son usage divin et déclaré d'une parole très simple. Notez les citations bibliques que je vais vous donner. Et encore une fois, je ne les ai pas reçus miraculeusement. J'ai dû piocher un peu. Ça ne va pas tout seul. Mais il y en a, c'est vrai, des serviteurs qui reçoivent toutes ces choses directement par le Saint-Esprit, presque automatiquement. Mais ce n'est pas mon cas. Il faut toujours dire la vérité, jamais mettre l'orgueil en avant, restons humbles. Alors, notez 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29. Il est dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Les choses méprisées a-t-il choisi ainsi que les choses qui ne sont pas signifiantes pour réduire à néant les choses qui le sont. Et cela afin qu'aucune chair ne savoure sa présence ou son importance. Saint Paul, qui, avec son propre témoignage, aurait pu se vanter, et comment, de son éducation personnelle et de ses avantages naturels, a répudié délibérément toute aide de ces choses et était très fier du fait que la source spirituelle de sa puissance fut seulement Christ, grâce au revêtement de l'Esprit Saint de Dieu. Notez Romains, chapitre 15, versets 18 et 19, ainsi que 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. D'ailleurs, le témoignage de la vie en commun de l'Église était destiné à être un témoignage surnaturel. Son point central était l'attestation d'un Christ levé qui était monté à la main droite. Il est ressuscité, il est monté à la main droite du Père au ciel, mais qui a continué, il a continué néanmoins à travailler, oui, à travailler avec et par son peuple sur la terre, ainsi perpétuant ce qu'il avait commencé à faire et à enseigner uniquement pendant qu'il était sur la terre. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1, la puissance effective pour un tel témoignage devait être la tombée du Saint-Esprit sur les croyants. Notez Actes, chapitre 1, verset 8. À partir de ces choses, on peut voir l'usage direct des dons spirituels. Ils devaient fournir une aptitude bien plus puissante que ne pouvait fournir la compétence naturelle la plus excellente et même plus profonde. Il devait fournir la base surnaturelle pour un ministère surnaturel. Le rapport proche entre les divers dons de l'Esprit et les divers ministères placés par Dieu dans son Église est rendu très évident par leur juxtaposition dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez comparer les versets 8 à 10 avec le verset 28. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 12. Le sujet provient logiquement l'un de l'autre. En effet, ce ne sont même pas des sujets différents, mais seulement deux aspects de la même chose. En ce qui concerne le travail du ministère de l'Église, le privilège heureux sera toujours concédé à la consécration humaine pour le Seigneur de ce service, de chaque talent et occasion desquels sa providence nous a dotés de naissance ou à cause des circonstances. Pourtant, ce fait ne peut jamais bouleverser le principe fondamental que pour le genre de ministère que Dieu a révélé comme le projet pour son Église, la suprême chose indispensable est un fonctionnement dynamique du Saint-Esprit en et par le ministre, ce qui veut dire le pasteur. Ayant établi le principe que tout véritable ministère chrétien provient d'un équipement divin, on ferait bien de s'arrêter un instant pour mesurer combien nous sommes écartés de ce principe aujourd'hui. Lorsque les hommes sont acceptés pour le travail du ministère, qui n'ont même pas de vrais témoignages à propos de la nouvelle naissance, sans parler du fait que le baptême du Saint-Esprit soit la première grande chose indispensable pour un service efficace. Et ajoutez à ceci la formation moyenne donnée est simplement une concentration des connaissances purement naturelles et l'amélioration des dotations purement naturelles sans pratiquement aucun égard pour les dons spirituels. Et cela est vrai. Il y a aussi un but dans la pratique régulière des dons de l'esprit chez l'Église, bien plus profond que simplement de répondre à ses besoins concernant le ministère, provenant du fait qu'il soit d'une origine divine, vient cet autre fait qu'ils sont une manifestation continuelle de l'esprit, un rappel constant et inspirant de sa présence et de sa puissance. Le ministère concernant les dons naturels donne très rarement cette impression. Plus souvent, il souligne l'intelligence de l'individu et exalte l'homme. Par contre, un vrai ministère concernant le don spirituel tient l'homme à l'écart et rend gloire à Dieu. C'est pas pareil. C'était comme ça, un vrai ministère apostolique. 1 Corinthiens chapitre 2. Un ministère qui est ouvert à tous. Et cela est vrai. Le plan du Seigneur pour le ministère dans son Église est révélé à la perfection dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. Et y inclut, il y a une part pour chaque croyant. Il y a donc une partie pour tout le monde. Les étudiants sincères du Nouveau Testament sont contraints d'avouer que le ministère, un seul homme, qui a tendance à prédominer totalement chez les églises d'aujourd'hui, n'est pas tout à fait l'ordre divin révélé dans son ensemble. Il vaut donc mieux sauvegarder immédiatement une telle déclaration, de crainte qu'on ait l'impression que nous sommes en faveur de la tendance ultra-démocratique et sans aucune loi visible dans certains milieux qui ne connaît aucune fonction ni aucune direction et qui donnerait à tous le même niveau d'autorité dans l'Église. Pas du tout. Ceci est souvent un revirement naturel vers l'autre extrême. L'idée ou l'idéal et le modèle scriptural, c'est un mélange parfait de la liberté pour que tout le monde puisse participer au ministère spirituel avec une reconnaissance que certains, je répète que certains, sont nommés divinement à des postes de direction et sont doués divinement pour des ministères remarquables comme pasteur, comme professeur, comme apôtre, comme évangéliste et comme enseignant, je l'ai déjà dit. Mais qu'il est beau que par un don spirituel, le croyant le plus humble peut aussi contribuer à l'ensemble de Christ et que d'ailleurs l'ensemble entier souffre si un ministère apparemment insignifiant est retenu. Ainsi, saint Paul, en décrivant une réunion de l'assemblée corinthienne, écrit « L'un est prêt à chanter un cantique, un autre à pratiquer son talent pour l'enseignement, un autre son don de s'exprimer dans des langues inconnues, un autre encore à donner sa révélation, c'est-à-dire, on appelle cela le don de la prophétie, et un autre, une interprétation. Mais, bien sûr, dans un ordre discipliné, pas n'importe comment, pas deux, trois qui parlent à la fois. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Les dons spirituels correctement pratiqués ont une utilité divine de claire bénédiction à la fois pour l'incrédule et l'Église de Dieu. La pratique méthodique de ces dons est essentielle avec cet objectif en vue, mais ceci sera le sujet d'une étude additionnelle. Il ne faut pas oublier ceci dans une étude sur l'utilité des dons spirituels et curieusement l'enseignement et le témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14 indiquant très clairement que le don que certains ont considéré précipitamment comme un don principalement pour usage public, le don de s'exprimer dans des langues inconnues, a en fait un usage privé très important. L'apôtre Paul remercie Dieu qu'il s'exprime dans des langues inconnues plus que les autres. Notez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Mais il est évident qu'il se sert très peu de son don à des rassemblements publics, selon le verset 19. La seule explication possible pour cette contradiction apparente, soit que l'apôtre Paul a pratiqué son don en privé. La clé se trouve dans les versets 2 et 28, où il déclare clairement que le croyant qui s'exprime dans des langues inconnues parle à Dieu, non pas à l'homme. D'ailleurs, l'apôtre Paul a ajouté « Je vais quelquefois prier avec l'esprit uniquement de cette façon. » Il n'avait pas peur de pratiquer un tel don de cette façon-là. Et qui est-ce qui sait? Qui sait combien de la bénédiction qui tombait sur les autres dépendait de ses intercessions spirituelles et combien de son propre ministère très puissant dans la puissance du Saint-Esprit provenait du flot d'abondance divine dans sa propre âme par cette route bienveillante de la communion. S'exprimer dans des langues inconnues est une pratique parfaitement scripturale. En plus, il n'y a rien de morbidement mystérieux dans de tels moyens de communion entre Dieu et l'homme. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Saint Jean, chapitre 4, verset 24. On déclare clairement que le don de s'exprimer dans des langues inconnues donne la puissance de s'exprimer à l'esprit humain. 1 Corinthiens 14, verset 14. Et peut donc fournir ainsi des moyens légitimes de communion entre le rédimé et le rédempteur, entre toi, mon cher frère, ma chère sœur, et le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas nécessaire que l'intellect prenne toujours une part active à la prière, surtout pendant la dévotion privée. Il est bien possible que les désirs ardents de l'esprit s'expriment de façon indépendante. Les résultats d'une telle expérience surnaturelle et ministère dans l'Église primitive ont eu une portée considérable et constituent l'une de ses caractéristiques les plus distinctives. Heureusement, comme l'on voit dans le premier chapitre, il y a sans doute des raisons de penser qu'ils peuvent se répéter. Doter des dons du mot de la sagesse, c'est-à-dire de la parole de la sagesse et de la parole du savoir, l'Église était équipée de l'intérieur pour un ministère aussi éclairant qu'il était stupéfiant à ceux qui étaient habitués uniquement aux subtilités d'une philosophie fière qui n'avait pas de place pour ceux qui l'appelaient insensé. Mais de tels instruments faibles, Dieu les a choisis. Il les a choisis à ce moment-là, selon 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27, et cela pour confondre la simple sagesse de ce monde. Et ils ont renversé le monde en une génération. Dotés des dons de guérir et du pouvoir de faire des miracles, l'Église avait une puissance fantastique dans son combat contre le paganisme dont le frappement d'Elimas. Elimas a été frappé par la cécité, et cela par l'apôtre Paul, selon Actes chapitre 13. La guérison des malades à Éphésus, chapitre 19, et la guérison du père de Publius, chapitre 28, sont des exemples notables. Dotés des dons de la foi et du discernement des esprits, l'Église avait été rendue forte pour faire face à la persécution la plus cinglante et pour subir les rigueurs de la guerre, car elle contrôlait surnaturellement ce qui est invisible ainsi que ce qui est éternel. Les formules les plus subtiles de l'ennemi, quand il venait comme un fief et ange de la lumière, ont aussi été immédiatement détectées. Dotés du don d'une parole inspirée, on parlait continuellement des mots, des paroles de révélation parmi elles qui ont dû électriser d'un feu divin à la fois les orateurs et les auditeurs, et qui fournissait un ministère comme ne pouvait produire ni un brillant discours naturel, ni une logique la plus persuasive. Son avantage pour l'Église et pour l'exhortation, l'édification et pour le confort, selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, a été vraiment inestimable, et son pouvoir de faire reconnaître coupable sur l'incrédule a été parfois formidable, voyez-vous. Il est probable que l'effet des dons spirituels correctement pratiqués au rassemblement de l'Église est résumé avec plus de force et avec plus de précision dans le verset 25. Dieu est dans et parmi vous d'une vérité. Il est la vérité. Ceci était le témoignage, non pas d'un enthousiaste déjà prédisposé à accepter tout comme si cela venait de Dieu, mais celui d'un incrédule, quelqu'un qui était venu sceptique et même hostile de son propre aveu. Néanmoins, si impressionné par ces manifestations de l'Esprit-Saint de Dieu, que le sens de la présence de Dieu dominait, ou si vous voulez, domina tous les autres sentiments, et est donc resté après comme étant le seul souvenir constant de cette visite à une assemblée chrétienne. Le but final et complet des dons spirituels a donc été révélé. Ils doivent mettre les hommes vis-à-vis avec la réalité du Dieu invisible. Il faut faire comprendre à l'Église que le Saint-Esprit est toujours présent et que toute véritable ou tout véritable ministère provient de lui qui est sa seule source de vie et de puissance. Et il faut rendre incrédule également, il faut rendre l'incrédule également conscient, c'est très important, du fait qu'on ne peut pas oublier Dieu et qu'on n'ose pas traiter le péché à la légère. Je répète parce que c'est important. Il faut faire comprendre à l'Église que le Saint-Esprit est toujours présent et que tout véritable ministère provient de lui qui est sa seule source de vie et de puissance. Et il faut rendre l'incrédule également conscient, très important, du fait qu'on ne peut pas oublier Dieu et qu'on n'ose pas traiter le péché à la légère. Quand l'Église profitera encore une fois de son équipement divin par la grâce puissante de chacun des dons de l'Esprit, elle sera véritablement belle comme la lune, comme le soleil, claire, je veux bien répéter, claire comme le soleil, et terrible, voilà un autre mot, et terrible comme une armée avec bannière. En tête de la liste de dons spirituels que l'on nous donne dans noté 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 10 se trouve le mot de la sagesse, se trouve la parole de la sagesse. Il est approprié que cela soit le cas. On nous rappelle Proverbe 4 verset 7. La sagesse est la chose principale. Et donc, obtenez la sagesse, et en obtenant, obtenez la compréhension. C'est ainsi que nous comprendrons beaucoup mieux certaines choses qui peuvent nous paraître parfois difficiles à comprendre. Moi le premier. Car même la connaissance sans sagesse peut se terminer par du pur fanatisme et la pratique correcte de tous les autres dons de l'esprit doit dépendre en grande mesure si la parole de la sagesse a une véritable valeur. Il est vrai que l'amour divin décrit si éloquemment dans 1 Corinthiens chapitre 13 à propos des dons spirituels est la suprême chose, la chose indispensable dans le cœur pour leur usage édifiant dans l'Église, mais cette sagesse divine n'est que le même amour qui est en vigueur dans la compréhension. Il ne peut pas y avoir de conflit concevable entre cet amour qui est le premier fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Et cette sagesse qui est le premier don de l'esprit, 1 Corinthiens 12, verset 8. Ils coexistent. Il n'y a donc aucune raison de douter qu'ici nous avons l'un des meilleurs dons qu'on nous commande de convoiter avec ardeur. Convoiter, chers frères et sœurs, avec moi, avec ardeur, ces merveilleux dons. Mais est-ce que ces dons de la parole de la sagesse et de la parole de la connaissance sont-ils des dons naturels ou des dons surnaturels? Certains croient que ce sont simplement des dons naturels de la sagesse et de la connaissance qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit et consacrés au service de Dieu. Une telle explication qui rend de l'aveu général la gloire de Dieu, ou si vous voulez la gloire à Dieu, pour nos dons naturels, suggère à juste titre leur usage le plus profond et accompli quand on les cède à l'Esprit de Dieu pour le travail du ministère. Je répète, une telle explication qui rend de l'aveu général la gloire à Dieu pour nos dons naturels. Cela suggère, à juste titre, leur usage le plus profond et accompli quand on les cède à l'Esprit de Dieu pour le travail du ministère. Mais est-ce qu'une telle explication répond à toutes les questions? Est-ce qu'elle s'accorde avec l'histoire complète dans le Nouveau Testament? Il semble y avoir une objection insurmontable contre elle, et cela en raison du fait que ces dons se trouvent dans une liste de manifestations du Saint-Esprit et font étrangement partie de cette dotation divine de puissance d'en haut qui vient aux croyants uniquement parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ceci est le thème insistant du passage entier de 1 Corinthiens chapitre 12, noté verset 3 jusqu'au verset 11. À l'un, l'Esprit Saint donne la parole de la sagesse, à un autre, la parole de la connaissance. Toutes ces choses travaillent avec le même esprit. Merci Seigneur. Or l'homme non régénéré, qui n'a jamais reçu l'Esprit Saint de Dieu, pourrait pourtant avoir de grands dons naturels de la sagesse et de la connaissance, évidemment. Des livres éminents sur la philosophie et des œuvres classiques de référence ont été écrits dans de nombreux domaines de connaissance par ceux qui avouent être athées, totalement athées. Il serait donc insensé d'attribuer de telles choses à l'Esprit Saint de Dieu. Ne commettons pas cette faute-là. Et même la sanctification, comme nous l'avons vu, ne peut pas changer la nature essentielle de ces talents qui sont purement humains. Il n'y a qu'une seule façon de s'occuper avec logique du sujet de ces dons spirituels. Il faut les considérer tous comme s'ils entraînent une certaine mesure d'opération surnaturelle du Saint-Esprit. Aucune autre vue ne correspond aux besoins clairs, très clairs du contexte. Personne ne soutiendra sérieusement qu'il y avait un rapport entre les dons de guérison dans le Nouveau Testament et la science médicale, ni que le don de s'exprimer dans des langues inconnues était simplement une acquisition ordinaire de langues étrangères à l'école bénédicte. Nous sommes donc logiquement contraints de reconnaître que les dons de la parole de la sagesse et de la parole de la connaissance étaient également surnaturels et font donc partie de cette opération de Dieu dans et par son Église, par laquelle l'Esprit Saint devient manifeste, dont l'Esprit Saint se manifeste. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, la parole de sagesse, sophos, et ses paroles apparentées, se trouvent à peu près 24 fois et toujours avec une distinction marquée entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu, ce qui n'est pas la même chose. Saint Paul, surtout, il déclare qu'il a mis délibérément de côté, il a mis de côté sa sagesse naturelle, car il en avait, qu'il possédait de son propre aveu et dont il aurait pu se servir pour qu'il pût canaliser la sagesse surnaturelle de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 4. Il affirme que cette sagesse vient par la révélation au verset 10, ce qui est compatible avec ce fait. Ce sont les grandes paroles de notre Seigneur enregistrées dans Saint Luc, chapitre 10, verset 21, où il dit « Je te remercie, car tu as caché ces choses aux sages et à ceux qui sont prudents, et tu les as révélées aux bébés, c'est-à-dire à des débutants même. » L'emploi du mot ou de la parole de la sagesse est montré ici pour être particulièrement la prédication de Christ et de la croix. très important, la prédication de Christ et de la croix. Et ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'enseignement des choses profondes de Dieu, ces méthodes de salut que l'Esprit Saint seul peut découvrir et peut révéler. Un tel enseignement plaît beaucoup, bien sûr, à la faculté d'intuition. Seulement, voyez-vous, ceux qui ont cherché à prêcher sur ces grands thèmes fondamentaux savent, comme le pouvoir humain se sert toujours sans ressources pour s'occuper d'eux suffisamment. Il se peut donc qu'on proteste et que c'est la fonction normale de toute prédication et de tout enseignement chrétien de tourner autour de ces sujets, et nous ne le contestons pas du tout. Néanmoins, dans un ministère d'un ordre qui est vraiment, vraiment de la Pentecôte, il apparaît souvent une révélation dans des paroles qui font brûler nos cœurs. Beaucoup d'entre nous ont ressenti la sainte crainte révérentielle et l'exaltation palpitante d'esprit qui accompagne un ministère du don spirituel de la parole de la sagesse. Nous avons reconnu, encore une fois, non pas les paroles qu'enseigne l'homme, mais les paroles qu'enseigne le Saint-Esprit. Et avec cette reconnaissance, il est venu une gratitude profonde que ce fameux ministère soit encore actif aujourd'hui, plus que jamais, dans l'Église. Concernant la direction apostolique, la manifestation de ce don dans le conseil et dans la direction est reconnu plus aisément comme étant une parole de sagesse, et elle a aussi une valeur suprême et importante à l'Église. La vie normale de l'Église nécessite la direction sage. Il arrivera forcément des problèmes et des situations délicates vont se présenter chez les croyants les plus spirituels. L'Église primitive n'a profité d'aucune exemption de toutes ces choses. Même pendant la première ivresse de grâce et de pouvoir de la Pentecôte, et aucun renouveau ultérieur ne nous enlèvera de leur présence. Néanmoins, les croyants sont sérieusement tentés de recourir aux principes purement charnels de la sagesse et de l'opportunisme de ce monde plutôt qu'à la sagesse qui vient d'en haut. Nous ne devons jamais oublier que l'Église est un ensemble spirituel, c'est pas une philosophie, et que même les problèmes les plus pratiques sont spirituels au fond. Par conséquent, la sagesse dont les églises ont besoin pour leur conseil et pour leur direction est une sagesse spirituelle. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et de la sagesse sont bien plus nécessaires que ceux qui se sont montrés heureux en affaires ou très brillants dans leur profession. L'exemple frappant dans le Nouveau Testament de la parole de la sagesse dans ce domaine, c'est la façon dont les 12, rappelez-vous les 12, se sont occupés du problème du ministère aux veuves, notez Actes chapitre 6 versets 1 à 7, il vaut la peine de citer intégralement la direction à la multitude. Il est dit, il n'est pas bien que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Les frères regardaient les 7 hommes honnêtes qui sont remplis du Saint-Esprit et de la sagesse, lesquels nous pouvons prescrire à propos de cette affaire, mais nous nous consacrerons constamment à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Plus on médite sur cette réponse sage, plus elle semble être vraiment parfaite, car elle incarne une loyauté aux principes spirituels les plus hauts, avec un bon sens le plus sain. En plus, il est révélateur qu'elle plaît à la multitude entière, elle a plu à la multitude entière, et elle a donné une nouvelle bénédiction qui a ajouté beaucoup plus de gens à la foi. Et de tels résultats sont toujours un indice sûr qu'une manifestation de la parole de la sagesse a donc illuminé le conseil. Dans une manifestation du don spirituel du ou de la parole de la sagesse, il vient tout d'un coup quelque chose. Il y a un sentiment du divin, un sentiment d'une conscience, d'une expression qui transcende tout le fond recueilli de l'expérience simplement humaine. On est extrêmement conscient qu'on a dit ce qui est certainement vrai, et que la vraie ligne de conduite a été indiquée. Aucun appel additionnel n'est désiré parce que le cœur reste dans une satisfaction calme que la volonté de Dieu a été vraiment révélée. Et une telle opération de l'Esprit de Dieu embellit la chambre du conseil avec un sens de la présence divine aussi précieux et aussi puissant que quelque chose que l'on peut ressentir à des occasions que la plupart des gens considèrent comme beaucoup plus spirituelles. Dans les nombreuses questions instantes posé continuellement à l'apôtre Paul sous la garde de toutes les églises, il a sans doute profité d'une riche expérience du don spirituel de la parole de la sagesse. Et heureusement pour nous, beaucoup d'entre elles a été conservée dans ses épîtres. La louange fraternelle de l'apôtre Pierre, des lettres de l'apôtre Paul sont spécialement intéressantes vu qu'il déclare particulièrement qu'elles ont été écrites selon la sagesse, sagesse qu'on lui avait donnée. Notez deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Il est donc aussi digne d'attention que saint Paul était carrément conscient, il était conscient de quand il donnait son propre jugement de lui-même, bien que cela soit mûr et sage, et quand il parlait de la parole du Seigneur directement par l'Esprit Saint, transmis, je le répète, par la révélation de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12, verset 25 et je crois verset 40. Il a également, ou il y a plutôt également, la sagesse pour une situation critique. Dans la nature du ministère qu'il entraîne, le don de la parole de la sagesse se trouve d'habitude chez ceux qui ont été placés dans des positions de gouvernement et de direction dans les églises comme des apôtres. Le Seigneur n'a enfermé aucun de ses dons dans des compartiments étanches et il arrive des occasions où n'importe quel croyant, toi ou moi, peut attendre une gracieuse manifestation personnelle de n'importe lequel d'entre eux pour répondre à un besoin urgent ou pour répondre à une occasion. Notre Seigneur a fait une promesse précieuse à ses disciples de leur donner une bouche et une sagesse, lesquelles pouvaient répondre efficacement à leur adversaire. Notez Saint-Luc, chapitre 21, verset 15. Et de telles énonciations ont été sans doute attribuées au Saint-Esprit. Notez Saint-Luc, chapitre 12, verset 12. À cet égard, nous pourrions les considérer comme étant une autre façon de manifester le don spirituel de la parole de la sagesse. Deux occasions au cours du ministère de notre Seigneur se détachent comme de grands exemples de ce genre de choses. Il y a tout d'abord sa question aux archiprêtres concernant le baptême de Jean. Saint Matthieu 21, verset 25. Car son défi rigoureux a fourni non seulement la réponse parfaite à ses opposants, mais aussi une confirmation à la vérité. Deuxièmement, il y a sa réponse célèbre à la question subtile à propos de payer le tribut à César. Notez Saint Matthieu, chapitre 22, verset 21. Donc, une réponse si sage et si complète qu'elle a l'admiration des gens depuis ce moment-là. Comme exemple humble du même genre de choses à une époque plus moderne, nous nous souvenons de l'histoire de la jeune fille que les dragons ont arrêtée un dimanche matin tandis qu'elle était en route au conventicule dans une dépression quelque part dans les Landes en France. Elle a répondu à leur interrogation qu'elle allait entendre simplement la lecture du testament de son frère aîné. et ils lui ont permis d'avancer en espérant qu'elle recevrait une grande portion. Il faut lire les Hébreux, chapitre 9, versets 15 à 17, pour comprendre toute l'histoire. Il faut un dernier mot d'avertissement, ou si vous voulez, une dernière parole d'avertissement. Il y en a qui se voient comme ayant le don de la sagesse, je ne le prétends pas moi, et ils se considèrent apparemment comme dotés d'une sagesse infaillible que l'on peut utiliser à n'importe quel temps ou à n'importe quel moment. Dans le sens erroné dans lequel de tels gens veulent le dire, un tel don n'existe pas. C'est le don de la parole de la sagesse et qui suggère une élocution parlée par une opération qui vient directement du Saint-Esprit à un moment déterminé plutôt qu'un dépôt qui serait constant de sagesse surnaturelle. Les croyants ne deviennent pas des réservoirs de ce genre de sagesse. Tous les trésors de sagesse et de connaissance sont cachés avec le Christ. Colossiens chapitre 2 verset 3. Rompu de sa grâce, un conseil de sottise totale peut être donné par quelqu'un qui a un autre temps, a eu par exemple des éclairs vraiment, pourquoi pas surnaturels, du don spirituel. Sa manifestation est donc sous réserve de la souveraineté divine, et donc elle dépend d'une marche ininterrompue du croyant qui est rempli de l'Esprit Saint avec le Seigneur. Il est important de revoir cette phrase. Sa manifestation est sous réserve de la souveraineté divine. N'oublions jamais cela. Et elle dépend donc d'une marche ininterrompue de ma part et de votre part. Ça veut dire du croyant qui est rempli de l'Esprit Saint avec le Seigneur. Chers amis, j'aimerais encore vous donner quelque chose de très important. Je dois demander au Seigneur qu'il me donne la force, et je ne suis encore pas totalement remis de ma bronchopneumonie, mais ça va mieux et je ne laisse pas pendre les bras, car chaque minute est précieuse et importante, surtout à mon grand âge, pour encore servir le Seigneur. Merci Seigneur de m'aider jusqu'au bout. Inonde-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit et de son savoir que je n'ai pas, mais que tu peux me transmettre maintenant. Merci Seigneur. Pour terminer, chers frères et sœurs, nous allons étudier la personnalité et la déité du Saint-Esprit. Très difficile et très important. Dieu donna son Fils sur la croix pour sauver les hommes. Il donna le Saint-Esprit à la Pentecôte pour appliquer ce salut dans la vie du croyant. Chaque chrétien régénéré est un temple du Saint-Esprit. Un chrétien, cependant, peut faillir, ne pas d'apprécier la totale bénédiction qui émane de l'éternelle présence du Saint-Esprit, parce que le fait que le Saint-Esprit soit une personne et qu'il est Dieu lui échappe. Avoir Dieu directement présent, actif et résolu dans sa vie est le privilège incalculable du croyant. Le Saint-Esprit est lui-même plus qu'une provision suffisante pour la marche journalière du chrétien, pour son service et pour sa préparation au service éternel. Remercions le Seigneur pour son précieux cadeau qu'est le Saint-Esprit, et reconnaissant sa sainte et charitable présence en nous. Premièrement, nous avons la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Numéro 1, il parle. Notez soigneusement toutes les indications que je vais vous donner. C'est très difficile et très important. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Premièrement, il parle. Notez 2 Samuel, chapitre 23, versets 1 et 2. Et notez Actes, chapitre 1, verset 16, et chapitre 28, verset 25. Deuxièmement, il fait des miracles. Notez Actes chapitre 2 verset 4, chapitre 8 verset 39. Troisièmement, il commande. Notez Actes chapitre 8 verset 29, chapitre 10 verset 19 et 20, chapitre 13 verset 2 et chapitre 16 verset 6 et 7. Quatrièmement, il désigne. Notez Actes chapitre 20, verset 28. Cinquièmement, il veut. Notez 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Ensuite, le Saint-Esprit éprouve de la sensibilité comme une personne. Premièrement, il peut être attristé. Notez Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Deuxièmement, il peut résister. Notez Actes, chapitre 7, verset 51. Troisièmement, on peut blasphémer contre lui. On s'adresse au Saint-Esprit en tant que personne. Premièrement, il est un autre consolateur envoyé pour prendre la place du Christ monté aux cieux. Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 16 à 18. Deuxièmement, on fait référence à lui à l'aide de pronoms personnels. Notez Saint Jean, chapitre 15, verset 26 et chapitre 16, verset 13 et 14. Deuxièmement, nous avons la déité du Saint-Esprit. Les noms qui lui sont donnés révèlent sa déité, sa divinité. Premièrement, il est l'une des trois personnes dans la divinité. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Notez 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Saint Jean, chapitre 14, verset 16, Éphésiens, chapitre 2, verset 18, et notez 1er épître de Pierre, chapitre 1, verset 2. Deuxièmement, il est appelé Dieu. Notez Genèse, chapitre 1, verset 2, Actes, chapitre 5, verset 3 et 4, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, chapitre 3 verset 16 et 17, et notez Éphésiens chapitre 2 verset 22. Troisièmement, il est appelé Seigneur. Notez Ésaïe chapitre 11 verset 2. Il est appelé Jéhovah. Notez Saint-Luc chapitre 4 verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 et 18. Ces attributs révèlent sa déité. Premièrement, la sainteté. Notez Actes chapitre 2 verset 4 et beaucoup d'autres passages. 1 Corinthiens par exemple, oui, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 et le verset 17. Deuxièmement, il est la vérité. Notez 1er épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 6, et l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 13. Troisièmement, il est l'omniscient. Notez 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 et verset 11 et 2e épître de Pierre chapitre 1 verset 20 et 21. Quatrièmement, l'omnipotence. Ses attributs révèlent aussi l'omnipotence. Notez Genèse chapitre 1 verset 2. Job, chapitre 26, verset 13, Actes, chapitre 1, verset 8, et Romains, chapitre 15, verset 19. Cinquièmement, il est l'omniprésence. Notez Psaume, chapitre 139, verset 7 à 10. Sixièmement, il est la grâce. Zacharie, chapitre 12, verset 10, et Hébreux, chapitre 10, verset 29. Ces œuvres du Saint-Esprit, ces œuvres révèlent sa déité, sa divinité, sa sainteté. Premièrement, la création, Genèse 1, verset 2, Psaume 104, verset 30. Deuxièmement, l'inspiration. Ses œuvres révèlent l'inspiration. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 20 et 21. Et deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 16. Troisièmement, il est la génération du Christ. Saint Luc, chapitre 1, verset 35. Quatrièmement, la régénération. Saint Jean, chapitre 3, verset 5 et 6. Et Titus, chapitre 3, verset 5. Cinquièmement, ses œuvres révèlent également la conviction. Saint Jean, chapitre 16, verset 8 à 11, et Genèse, chapitre 6, verset 3, pour comparer. Sixièmement, le baptême. Ses œuvres révèlent le baptême. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Septièmement, le scellage, être scellé. Éphésiens, chapitre 1, verset 13 et chapitre 1, verset 30. Huitièmement, la sanctification. Deuxième épître des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Galates, chapitre 5, verset 22 et 23. Et notez Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Le Saint-Esprit représente, troisièmement, l'expérience pratique dans la vie du croyant. Premièrement, le croyant est en sécurité parce que le Saint-Esprit l'a scellé. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Deuxièmement, le croyant dépend du travail du Saint-Esprit quant à sa vie dans le Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 2. Troisièmement, le croyant peut compter sur le Saint-Esprit pour une marche journalière qui plaira à Dieu. Galates chapitre 5, verset 25. Et pour une prière efficace. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et pour de la puissance dans son service. Romains 15, verset 19. Quatrièmement, le croyant doit compter sur l'illumination du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 12, et Éphésiens, chapitre 1, verset 17 et 18. Cinquièmement, le croyant doit toujours se soumettre au Saint-Esprit complètement et en toute confiance. Galates chapitre 5, verset 16, Romains chapitre 8, verset 14, et ajoutez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Chers amis, je vous conseille, parce que c'est très difficile, de réécouter ce que vous venez d'entendre, car c'est très important pour votre vie à partir d'aujourd'hui. Nous allons, si vous le voulez bien, terminer ensemble par la prière. Oh, on n'a plus beaucoup de place. Essayons. Dieu, de toute miséricorde, qui est la force de tous ceux qui mettent leur confiance en toi, exauce nos prières pour l'amour de ton Fils bien-aimé. Que la grâce nous prévienne et nous accompagne à la fin de la journée quand nous allons nous livrer au sommeil, comme aussi lorsque, au matin, nous reprenons le cours de notre vie. Que ta protection nous garde en tout temps et en tout lieu. Qu'elle nous défende contre tout danger et toute tentation. Nous avons besoin sans cesse de répéter cette demande de l'oraison accomplie que notre divin Sauveur a daigné nous apprendre. Ne nous abandonne pas à la tentation. Sans ton secours, ô Seigneur, comment pourrions-nous échapper au piège que l'ennemi de nos âmes ne se lasse pas de tendre autour de nous? Lorsque nous nous croyons affermis, c'est à ce moment même que nous sommes le plus près de succomber en transgressant les lois divines. Et c'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Veillons et prions de peur que nous ne tombons dans la tentation. Oui, faisons attention. L'humilité, la défiance de nous-mêmes, la fidélité à implorer la protection de notre Dieu, un désir sincère de ne pas l'offenser. Voilà les dispositions qui peuvent nous préserver du mal, du malheur surtout, d'être vaincus par la tentation. Jésus, notre adorable Sauveur, il fut tenté lui-même afin de pouvoir aussi secourir ceux qui sont tentés, toi et moi. Son exemple nous apprend comment nous devons repousser le tentateur. Le Rédempteur du monde, le Verbe éternel, ne répondit à ces dangereuses suggestions que par les paroles mêmes des Saintes Écritures. Nous enseignons ainsi ce que nous devons faire et nous montrons que la parole de Dieu doit être notre bouclier comme elle est notre lumière et notre guide infaillible. Ô Seigneur, daigne-nous apprendre à fuir les tentations de quelque nature qu'elles puissent être. Daigne-nous inspirer un véritable et salutaire effroi de t'offenser. Daigne détruire par ta puissance tout prestige et toute funeste séduction. Que le mal soit toujours le mal pour nous, le péché toujours le péché, les ténèbres toujours ténèbres, que nous ne nous séduisions pas nous-mêmes, mais que reconnaissant toute tentation, nous puissions implorer et recevoir la force de l'endurer. Tu es fidèle, ô Seigneur, et tu ne permettras point que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si notre cri et nos supplications montent jusqu'à toi, ne cessons donc jamais de te les adresser tant que nous sommes sur cette terre d'épreuve. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite concernant le thème du Saint-Esprit. C'est la deuxième partie, puisqu'il existe déjà une première partie importante que vous pouvez trouver sur le site internet. Au revoir mes très chers amis, à demain, Dieu voulant.